Vous écoutez, on lit pour vous.
La pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir. Mise en évidence durant la pandémie, la pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public qui en compte 127 de moins qu'il y a 2 ans. On recensait 2023 psychologues dans le réseau public au 4 avril dernier, selon des données fournies par Santé Québec. Or, le gouvernement évaluait il y a 2 ans qu'il en faudrait 2461 cette année pour répondre aux besoins, soit un manque à gagner de 438 personnes. En 2024, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, s'était dit convaincu de juguler la pénurie en 2 ans. La première année où on va avoir pourvu nos postes, c'est 2026, avait-il déclaré. Pour y arriver, le ministre tablait sur un nouveau programme de bourse pour les internats en psychologie. Or, les données montrent plutôt que leur nombre a continué à diminuer depuis avec 127 psychologues de moins en 2026 dans le réseau par rapport à 2024. Lionel Carman a été interpellé à ce sujet par l'opposition péquiste lors de l'étude des crédits mardi en fin de journée. M. Carman est depuis peu de retour au poste de ministre responsable des services sociaux après avoir remis sa démission en octobre dernier en raison du malaise qu'il éprouvait avec l'imposition d'une loi spéciale sur la rémunération des médecins spécialistes. Selon Santé Québec, les professions où les pénuries de ressources sont les plus marquées dans le réseau sont les infirmières, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les technologistes médicaux et techniciens de laboratoire, les perfusionnistes et les psychologues. C'était « La pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public », un texte d'Isabelle Porter, paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.
L'aide médicale à mourir et l'insurmontable consensus, un éditorial de Marie Vastel, publié dans Le Devoir du 6 mai 2026. Les années s'écoulent, les réflexions se suivent, mais le consensus social d'acceptabilité ayant entouré les avancées successives encadrant l'aide médicale à mourir n'émerge toujours pas pour les personnes atteintes d'un trouble mental qui souhaiterait, sur la base de ce seul grave et délicat critère, avoir accès elles aussi à cette fin de vie. Et le temps qui passe n'y change à peu près rien. Psychiatres, citoyens et provinces canadiennes demeurent tout aussi partagés. Des divergences qui, tant qu'elles perdureront, poseront un infranchissable frein au cheminement de ce débat de société qui ne peut se poursuivre que dans l'assentiment social. Nulle discussion n'est plus épineuse que celle-ci. Au paternalisme médical dénoncé par certains s'oppose une autonomie médicale réclamée par d'autres, mais sur laquelle les avis d'experts en psychiatrie demeurent divergents. À toute la délicatesse entourant un tel choix de fin de vie se greffe l'inouïe complexité des troubles mentaux. Or, pour plusieurs, les mémoires et les témoignages présentés au comité mixte de sénateurs et de députés qui s'est penché sur cette suite possible à l'accès à l'aide médicale à mourir, prévue pour mars 2027, auraient somme toute pu se résumer à du copier-coller des représentations faites devant le même comité il y a 3 ans. Le rapport final, attendu d'ici cet été, au terme de 2 mois d'audience ayant pris fin mardi, risque fort bien de se solder à son tour par la même recommandation, soit celle d'un report, un autre, de ce débat manifestement enlisé. Précipiter ou faire avorter toute autre décision, faute de consensus dans un sens comme dans l'autre, serait impensable pour une question aussi cruciale. Fixer un nouveau délai sans corriger les failles que représente le manque criant de services en santé mentale, invoqué depuis des années et encore à ce jour pour expliquer les craintes persistantes de certains, serait toutefois impardonnable. D'une part, une quinzaine de directeurs de départements de psychiatrie d'université des quatre coins du Canada réitèrent en leur nom personnel, de même qu'en écho aux préoccupations brandies par d'autres collègues du domaine, qu'il n'existe aucune définition unanimement reconnue du caractère « irrémédiable » entre guillemets du trouble mental dont un patient ne pourrait espérer se remettre, ni de critères universels permettant de distinguer des pensées suicidaires d'un souhait éclairé de se prévaloir de l'aide médicale à mourir. À l'inverse, des psychiatres comme la Dr Mona Gupta, également professeure titulaire à l'Université de Montréal, rétorquent de nouveau que ces incertitudes en matière de diagnostic ou de prévisibilité clinique ne sont pas propres aux troubles psychiques et concernent aussi les affections physiques. Qui plus est, les personnes souffrant d'un mal physique et se prévalant de l'aide médicale à mourir ne sont pas exemptes de troubles mentaux ou de pensées suicidaires, une telle évaluation médicale faisant ainsi, guillemets, déjà partie de la pratique de l'AMM. Fin des guillemets. La raison invoquée pour réclamer qu'on reporte indéfiniment un tel élargissement de l'aide médicale à mourir, d'un côté, ou qu'on aille enfin de l'avant, de l'autre, non, aucunement, ou à peine évolué. L'opinion populaire n'a pas non plus fluctué. 80 % des Canadiens et 85 % des Québécois seraient à l'aise de voir l'admissibilité de l'aide médicale à mourir élargie au trouble mental comme seule affection, selon un sondage commandé par le lobby Mourir dans la dignité Canada. Mais, encore là, seulement en vertu de balises strictes, qu'il s'agisse d'une maladie grave, résistante au traitement, causant des souffrances persistantes et intolérables. Le Québec et l'Alberta, en revanche, ont adopté ou proposé une loi excluant explicitement cette option. En marge de tous ces débats législatifs, des personnes cloîtrées dans leurs souffrances psychiques ne savent pas où se tourner, dans l'attente interminable de compassion de la part de leur gouvernement et de la société. Que le Québec demeure un chef de file de l'aide médicale à mourir dans le monde pour les personnes souffrant de maladies physiques incurables, avec un taux de 7,9% des décès en 2024-2025, et qu'il soit suivi de près par le reste du Canada, 5% des décès la même année, incite cependant à mûre réflexion. Le vieillissement démographique y est certes pour quelque chose, tout comme l'indifférence religieuse d'une part importante de la population, ainsi que le libre accès dans le système public à cet ultime soin thérapeutique. La décision réfléchie du Québec et du Canada d'offrir ce choix de fin de vie fut toutefois prise d'un commun accord jusqu'ici. Étendre à nouveau l'AMM ne peut se faire de manière précipitée en l'absence d'un indispensable consensus. Un énième report de son élargissement ne pourra en revanche s'opérer sans qu'on y adjoigne cette fois-ci un échéancier prescrivant l'étude de mesures concrètes destinées à répondre aux craintes perpétuellement évoquées ou de balises possibles à apporter dans le cas délicat d'affection psychique, et ce, afin d'éviter de simplement perpétuer, pour ceux qui en souffrent, cette valse hésitation de compassion. Fin de cet éditorial de Marie Vastel titré « L'aide médicale à mourir et l'insurmontable consensus » publié dans Le Devoir du 6 mai 2026.
Flexibilité et inégalité au travail. Un texte de Maude Goyer, paru le 4 mai 2026 dans la presse. Le manque de flexibilité au travail freine la progression et la sécurité financière des femmes. Elles sont plus nombreuses que les hommes à préférer travailler en mode hybride ou à distance, mais paradoxalement moins nombreuses qu'eux à avoir accès à de telles modalités. Comment expliquer cet écart et surtout, comment le réduire ? Les données proviennent d'un récent sondage de Catalyst Canada, une organisation vouée à l'avancement des femmes en milieu de travail, menée auprès de 955 travailleurs. On y apprend que 67% des femmes préfèrent travailler en mode hybride ou en télétravail plutôt que totalement en présentiel, contre 60% des hommes. L'enjeu ne tient pas qu'aux intentions, mais à l'accès réel. 22% des femmes n'ont aucune option de travail flexible, contre 15% des hommes. Le travail hybride demeure limité, offert par seulement 34% des organisations. La division sexuelle du travail est encore bien présente, explique Mélanie Lefrançois, professeure de santé et sécurité du travail au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de la gestion, ESG, de l'UQAM. Les femmes sont encore surreprésentées dans le milieu du care, comme les soins et l'éducation. Comment une infirmière, une enseignante ou une éducatrice peut-elle profiter de flexibilité dans son travail ? Rétention et discrimination. Selon Diane Gabrielle Tremblay, conseillère en ressources humaines agréée et professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université TELUC, les femmes sont effectivement majoritaires dans les secteurs où l'accès au travail flexible est limité. Je pense aux services à la clientèle, à l'hôtellerie, à la restauration, au commerce de détail et aussi aux soins infirmiers et à l'éducation, dit-elle. Ce sont, en plus, des milieux dans lesquels les salaires ne sont pas élevés. La recherche de Catalyst montre que ce déséquilibre a des effets mesurables. Le manque de flexibilité est associé au départ des femmes du marché du travail et à une rétention plus faible. Il est aussi lié à des environnements moins inclusifs. La discrimination est deux fois plus élevée en présentiel qu'à distance. À l'inverse, la flexibilité agit comme un levier de rétention et d'inclusion. Tâches domestiques et charges mentales. La flexibilité n'a pas que du positif. Il y a des effets sur la carrière, indique la professeure Mélanie Lefrançois. Mise devant des choix, certaines employées se tournent vers le télétravail ou le temps partiel. Oui, certaines entreprises vont aménager les horaires de travailleuses, mais elles seront alors moins disponibles et moins visibles, et donc moins considérées, par exemple, pour des promotions. On évalue encore trop souvent la quantité de travail plutôt que les résultats. Ça prend un changement de mentalité. Les femmes continuent de porter à la fois les tâches domestiques et la charge mentale qui vient avec, en plus de leur travail professionnel. Cela pèse sur leur santé mentale et physique. En plus, en télétravail, la charge mentale est invisibilisée. Aider et s'appauvrir. Le travail à temps partiel a peut-être l'avantage de libérer l'horaire familial en permettant une meilleure conciliation travail-famille, mais il a lui aussi une face sombre, précise Diane Gabrielle Tremblay. Le temps partiel comporte un piège. Les femmes s'appauvrissent. Si elles n'obtiennent pas de flexibilité au travail, elles choisissent de réduire leur temps de travail ou de partir carrément. Elles le font quand les enfants sont petits, mais aussi, pour aider leurs parents, elles deviennent proches aidantes. Un constat s'impose. Offrir plus de flexibilité ne suffit pas. Encore faut-il que celle-ci soit pensée de façon équitable. Cela suppose de revoir les pratiques des employeurs, mais aussi les attentes sociales qui continuent de peser davantage sur les femmes. Il n'y a pas de solution « one size fits all », dit Mélanie Lefrançois. Les besoins varient d'un travailleur à l'autre. Les employeurs doivent consulter, se concerter, parler de la charge de travail et de la flexibilité, dans un espace psychologiquement sécuritaire, dans un contexte où les employés ont envie d'échanger. Il faut être proche de ces gens. Idéalement, les femmes occuperaient davantage de postes décisionnels, professionnels, avec plus d'autonomie et de meilleurs revenus, croit Madame Tremblay. Mais la seule vraie solution, au fond, c'est un meilleur partage de toutes les tâches liées à la famille et à la sphère domestique, tranche Madame Tremblay. Plus les hommes s'investiront à la maison et plus il y aura de mixité dans les équipes, plus grande sera l'équité. C'était « Flexibilité et inégalité au travail », un texte de Maud Goyer, paru le 4 mai 2026 dans la presse.
Au Bangladesh, la difficile protection des tigres du Bengale. Un texte de Sheikh Sabiha Alam, de l'agence France Presse, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir. Pendant des siècles, il a été le roi des Sundarbans, féroce, redouté et célébré. Mais le règne du tigre sur cette immense mangrove du sud du Bangladesh s'achève peut-être sous les coups conjugués des humains et du changement climatique. Abdul Ghani Ghazi est l'un des premiers à avoir tiré le signal d'alarme. À 45 ans, cet homme, surnommé Ghani Tiger, a dédié sa vie à la coexistence des félins et de la population. Souvent au péril de sa vie, nuance-t-il. Malgré la peur, cet infatigable militant revendique aujourd'hui avoir sauvé 36 tigres du Bengale des fusils ou des pièges humains et 106 résidents des griffes de l'animal. Mais à rebours des succès obtenus avec leurs cousins du Népal, leur population y a triplé depuis 2010, les efforts de préservation peinent à se concrétiser dans le delta du Gange. Leur nombre atteint aujourd'hui 125, compte Abdul Ghani Ghazi. Si nous voulons que les Sundarbans survivent, et avec eux les milliers de gens qui en dépendent, nous avons besoin des tigres du Bengale. Lors d'un sommet en 2010 à Saint-Pétersbourg, le Bangladesh s'était engagé à tout faire pour doubler la population de ces fauves, à l'époque estimée selon une méthode empirique à 414 individus. 5 ans plus tard, un recensement photographique nettement plus précis a ramené leur nombre à 106, puis à 114 en 2018 et 125 en 2024. Braconnage. Une progression de 2 tigres par an en moyenne, jugée insuffisante au regard des millions de dollars engagés par Dhaka. Le dernier plan 2022-2025 de protection a coûté au gouvernement 4,2 millions de dollars sur 3 ans. Conservateur en chef des forêts, Amir Hossein Chaudhuri attribue d'abord ses difficultés à la patte humaine. Selon lui, la montée des eaux de la mer et la salinité croissante des sols qui en résultent ont détérioré les terres agricoles et poussé les habitants à empiéter sur le territoire des tigres. Sans conflit majeur depuis 2018, assure un garde forestier, Azim Hassanout Rahman, mais l'empreinte humaine s'est élargie et a dégradé les conditions de vie de nombreuses espèces, dont les tigres, résume M. Chaudhuri. La chasse et le braconnage constituent l'autre menace qui pèse sur les félins. La Constitution du Bangladesh garantit depuis 1972 la protection de la biodiversité. Et depuis 2012, une loi punit ceux qui tuent un éléphant ou un tigre de 7 ans d'emprisonnement et d'une lourde amende. Dissuasif? Apparemment pas. En janvier encore, 1 tigre du Bengale a été retrouvé pris dans un piège. Les braconniers continuent à hanter les forêts en quête de peau, de dents ou d'os de tigre, prisés des tenants de la médecine traditionnelle chinoise ou des collectionneurs du monde entier. Selon l'expert Nazir Houdin, plusieurs groupes criminels se partagent ce juteux marché. Écosystème menacé. Parfois, ils tuent des tigres sur un ordre venu du Bangladesh ou d'ailleurs. Parfois, ils le font aussi pour se protéger des tigres qui pourraient les attaquer, détaille-t-il. La chasse d'autres proies menace également les félins, comme celle des cerfs, qui constituent 80% de leur régime. Une étude a estimé en 2013 à 11 000 le nombre de cerfs abattus chaque année dans la région. Si un tigre est tué dans les Sundarbans, tout l'équilibre de l'écosystème est menacé. Et si un cerf est tué, c'est toute la chaîne alimentaire qui est perturbée, résume le professeur Aziz. ça peut pousser le tigre à s'approcher des villages et à les attaquer. Et le dérèglement climatique n'arrange rien. En plus d'accélérer la montée des eaux et d'augmenter le nombre d'épisodes météorologiques violents, il redessine ou élargit les lits des cours d'eau, perturbant les zones de chasse des félins. On leur a creusé des mares pour qu'ils puissent boire, mais on a vu des braconniers y déposer de la nourriture empoisonnée, souligne le conservateur Chowdhury. Le nombre de tigres répertoriés dans le monde est passé de 3200 en 2010 à plus de 5500 en 2023, selon le Fonds mondial pour la nature, WWF. Alors, en dépit de ces difficultés, le docteur Abhishek Ariar de l'ONG Pantera reste optimiste. Les efforts de préservation ont empêché la chute du nombre de tigres et permettront peut-être la survie de l'espèce à long terme. C'était, au Bangladesh, la difficile protection des tigres du Bengale, un texte de Sheikh Sabia Adam de l'agence France Presse, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir.
La récréation essentielle aux enfants de tous âges, indique un groupe de pédiatres américains. Un texte de Laura Ungar de l'Associated Press, paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir. La récréation n'est pas seulement une pause ludique pour les élèves du primaire. Elle est essentielle à la bonne santé et aux bons résultats scolaires des enfants de tous âges. C'est le message lancé par un important groupe de pédiatres qui vient de publier les premières nouvelles recommandations en 13 ans concernant ce temps libre à l'école et la nécessité de le préserver. La mise à jour de la déclaration de principe de l'Académie américaine de pédiatrie intervient après des années de réduction des récréations et de détériorisation de la santé des enfants. Le groupe a toujours soutenu le jeu libre pour les enfants, mais celui-ci est de plus en plus menacé au fil du temps, en partie à cause de la recherche de meilleurs résultats aux examens, a prévenu le Dr. Robert Murray, l'un des auteurs principaux. Il présente un avantage considérable s'il est pleinement exploité. Les nouvelles recommandations publiées lundi dans la revue Pediatrics sont similaires à la précédente déclaration de principe, mais s'appuient sur les dernières recherches expliquant pourquoi ces pauses sont essentielles non seulement à la réussite scolaire des enfants, mais aussi à leur développement mental, physique, social et émotionnel. Par exemple, de nouvelles données montrent que les enfants ont besoin de pauses entre des périodes d'apprentissage intensif afin que le cerveau puisse assimiler et stocker les informations. Les chercheurs affirment également que la récréation donne aux enfants l'occasion de gérer leurs relations et de renforcer leur confiance en eux, ce qui est tout aussi important pour les plus grands que pour les plus jeunes. Le Dr. Murray et ses collègues ont également souligné l'importance de l'activité physique dans la prévention de l'obésité, une affection qui touche aujourd'hui environ un enfant ou adolescent américain sur 5. Compte tenu de ces bienfaits, il recommande que la récréation soit préservée et ne soit jamais supprimée pour des raisons scolaires ou disciplinaires, comme cela arrive parfois dans les écoles. Si un enfant perturbe la classe, se montre grossier ou irrespectueux, la récréation est l'un des moyens utilisés par les enseignants pour le punir, a déploré le Dr. Murray, ajoutant que les élèves en difficulté comportementale ou scolaire sont souvent ceux qui ont le plus besoin de la récréation. Mais ces élèves ne sont pas les seuls à en pâtir. La récréation est en déclin pour tous les enfants. Depuis le milieu des années 2000, jusqu'à 40 % des districts scolaires des États-Unis ont réduit ou supprimé la récréation selon les données du groupe Springboard to Active Schools en collaboration avec les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Aujourd'hui, la durée de la récréation varie considérablement d'une école à l'autre aux États-Unis, allant de moins de 10 minutes à plus d'une heure par jour, a indiqué le groupe de pédiatres. Les enfants plus âgés ont généralement moins de temps que les plus jeunes. Idéalement, selon les études, les enfants devraient bénéficier d'au moins 20 minutes par jour et de plusieurs pauses. Dans d'autres pays tels que le Danemark, le Japon et le Royaume-Uni, les élèves ont droit à une pause toutes les 45 à 50 minutes de cours. Ils devraient disposer d'un laps de temps suffisamment long pour se détendre, se défouler et se préparer au cours suivant, a indiqué le Dr. Murray. La Dr. Lorraine Fischner, experte en obésité infantile à l'hôpital pour enfants Mass General Brigham de Boston, s'est dite satisfaite de ces nouvelles recommandations concernant les récréations. Elle rappelle que les élèves plus âgés ont eux aussi besoin de récréation. À mesure que les enfants grandissent, ils passent plus de temps devant leurs écrans. Je pense donc qu'il est vraiment utile d'avoir des activités en plein air et des récréations, a-t-elle déclaré. Les récréations, c'est génial. On en a tous besoin de récréation, en quelque sorte. C'était la récréation essentielle aux enfants de tous âges, indique un groupe de pédiatres américains. Un texte de Laura Ungar de l'Associated Press, paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir.